Je vais profiter de ces moments pour faire une petite révision de ce que nous avons vu la fois dernière. Et je vais poser 4 questions. Question à Kwanza, Nayapili, bon, Nayatatu aussi. Mumu Akeshindwa, Bawili, je serai obligée de donner la réponse. N'aniké pas la réponse, qu'il a peut-être à cotiser 100 francs, qu'on y a encouragé. Civil. Alors, est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que vous êtes prêts? Ah, d'accord. Première question. Question à choix multiple. Bebanimaliza exeta sa saivi banapata jimbanes. Civil. Alors, première question. La victoire à Golgotha a inauguré A. Notre salut. B. Une bonne vie chrétienne. C. Une série de victoires. D. Une nouvelle naissance. Et E. Toutes les réponses sont bonnes. Qui va être le premier?
Je réponds à la question.
Oui, frère, nous vous écoutons. Il faut répondre par la lettre. Genre, où t'as
c'est ma...
C. Ah, très bonne réponse. Nous allons acclamer le Seigneur pour le frère. Le prédicateur, la fois dernière, a dit « La victoire à Golgotha a inauguré une série de victoires. » Félicitations. Deuxième question. Nous sommes en train de dire selon ce qui a été dit la fois passée. Toutes les réponses peuvent être bonnes, mais comme un prédicateur Hakubisema, ça n'entre pas en compte. OK. Alors, deuxième question. Contre qui est notre combat? Deux assertions sont bonnes. A, le diable. B, les esprits démoniaques. C, c'est la famille. Yeah. Et D, les sorciers. E, le monde. Deux réponses sont bonnes. Mais la peine de la réponse est toi qui n'as pas vu. Parce que si la chorale répond, on va dire que non, Tulipana, ma réponse. Oui, frère.
Donc, je pense que la réponse, c'est A et E.
A et E. Très bonne réponse. Nous allons acclamer pour le frère. Troisième question. Complétez les points, points, points. Les bénéfices de la victoire de Christ à Golgotha, point, point, point. Une fille. Les garçons réclament les filles. On veut entendre une voix féminine. Oh, émancipation. Oh, la parité. Oh. Dites-toi chez Mouraïa, les filles, s'il vous plaît. Bon, je donne l'indice. Les bénéfices de la victoire de Christ à Golgotha sont point, point, point. Marabani a facile. Il y a une statue, il y a TikTok. Oui, il y a une sœur là derrière.
Le bénéfice de la victoire de Christ à Golgotha sont pour les intimes des dieux.
Ah, très bien. Nous allons acclamer pour la sœur. Wow. Dernière question. Une question facile et saine. Et oui, deuxième question, je veux entendre vos réponses. Je veux vous entendre vous exprimer. As-tu déjà été affecté par une pensée négative et comment tu as fait pour t'en sortir? Kwamufano, quand j'étais enfant à l'école primaire, j'étais non seulement de mon aîné, mais j'étais aussi de mon cousin. Bon, ben, il y a quoi, c'est moi qui suis là, il n'y avait pas de quoi comprendre. Et puis le professeur de gymnastique, à chaque fois, comme si ça ne suffisait pas de me traumatiser, qui l'a si qu'aux courses, qui l'a si qu'aux courses. Imaginez un de mon aîné, de mon cousin en train de courir avec les autres. J'étais toujours la dernière. Maintenant, cela m'affectait au point que je n'arrivais pas à m'exprimer devant les gens. Et puis un jour, j'ai entendu une parole en psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et à partir de ces jours-là, gloire à Dieu, je suis devant 200, 300 personnes et je rends grâce à Dieu de m'avoir délivré de ces pensées négatives. Alléluia! Alors, qui d'autre a déjà été affecté par une pensée négative et comment il a fait pour s'en sortir? Il y a une main là derrière? En une minute, c'est même une minute. Et voilà. En une minute, vous allez juste donner votre témoignage.
Merci beaucoup. Bonjour.
Bonjour.
Ouais. Moi aussi, j'ai été un moment victime d'une pensée négative. J'avais vraiment peur. Quand je suis venu au Seigneur, j'avais peur. Ça, c'était des images des films que je voyais. Oui, des films que je voyais et des photos que je voyais. Par exemple, moi, je voyais beaucoup, je regardais beaucoup des films du genre naturel. S'il vous plaît, je vais m'expliquer.
S'il vous plaît.
La nature, donc, je regardais beaucoup les films...
Oui, frère, vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Un peu de mots.
Les documentaires.
Oh.
Les documentaires animaliens. Donc, je regardais beaucoup les documentaires animaliens. Et souvent, je regardais les rhinocéros, les éléphants. Et des fois, quand cela me venait à l'esprit, j'ai commencé à penser que quand j'ai regardé quelqu'un dans le visage, je pensais qu'il est... Je le voyais comme un éléphant. Comme un rhinocéros. Et ça me dérangeait beaucoup. Ça me dérangeait beaucoup du fait que j'étais beaucoup culpabilisé. Quand je pense à la parole de Dieu qui dit « Vous avez été créés à mon image. » Et moi qui me présente un homme comme un animal, ça me dérangeait beaucoup. Alors je rends grâce à Dieu parce qu'un jour, j'ai été en contact avec un conseiller qui m'a beaucoup aidé. Il a dit que ce qui va beaucoup t'aider, tu sais, tu as des mauvaises choses dans la tête. Et pour remplacer une mauvaise chose, il faut y mettre une bonne. Alors la parole de Dieu dit que la parole du Christ habite en vous dans toute son abondance.
Exact.
Afin que vous soyez quelqu'un qui réfléchit beaucoup, vous y méditez, ça va vous aider beaucoup et ça va remplacer les mauvaises pensées.
Merci frère.
Merci beaucoup.
Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur pour ses délivrances. Une dernière personne, une minute s'il vous plaît. Y a-t-il une dernière personne? D'accord. Nous disons gloire à Dieu pour tous les témoignages. Et pendant ce moment, nous allons inviter sous nos acclamations, s'il vous plaît, l'orateur du jour. Il va passer devant et jusqu'à ce qu'il arrive, continuez à acclamer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et celui qui va prier pour le message. Bienvenue, pasteur.
Père, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir encore nous revoir. Puisses-tu parler à nos cœurs et puisses-tu nous faire énormément de bien. Puisses-tu atteindre tes objectifs au travers de la parole de ce matin. Nous nous opposons à tout ce qui pourrait faire obstacle au message que tu as prévu délivré au travers du faible instrument que je suis. Rempli d'imperfections, cependant, il t'a plu dans ta bonté de faire de nous porteurs d'un message dont nous n'étions pas dignes de prononcer. Que ta grâce surabonde et que ta faveur soit notre partage. Accomplis ces choses pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut maintenant acclamer pour notre frère qui a répondu en dernier, s'il vous plaît?
Il est important de célébrer la grâce du Seigneur dans sa vie. Sinon, il nous verrait comme des rhinocéros à l'heure qu'il est. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère? Est-ce qu'on peut acclamer? Sinon, on serait des serpents à ses yeux. Est-ce que le frère peut s'élever afin qu'on célèbre la grâce du Seigneur dans sa... Ah, voilà! Alléluia! Je bénis le Seigneur pour ce qui s'est passé dans la vie de mon frère. Sinon, j'aurais été curieux de savoir, il nous voit comment à l'heure qu'il est là. Non, Dieu est fidèle. Un prédicateur avait dit, Dieu a des enfants. Ah oui, Dieu, il a des enfants. Il a pris chacun de nous de loin. À un moment, moi, je croyais que j'avais été pris de loin, mais je me rends compte que mon frère, ni t'était la grâce. Non, il est merveilleux. Il est merveilleux. Je serais ravi de serrer sa main et me souvenir de son nom. Quand je rentrerai chez moi, je raconterai cette histoire à mon épouse et à ma fille. Quand je serai sur le point d'interdire à mon enfant les films naturels et que ma fille me demandera pourquoi, je lui dirai parce qu'un ami, un frère, une fois m'a dit que ça pouvait affecter notre perception de gens. Alléluia. Je n'ai presque plus envie de prêcher, j'ai envie de descendre. Il a tout dit, au fait. Waouh. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette faveur, encore ce midi. Dieu est fidèle. Je laissais revenir sur ce que nous disions dernièrement. Et ce qui a été fait ici est un merveilleux résumé. Quand je vous entends, je suis moi-même étonné. Je comprends que ce que je dis est entendu. J'aimerais, avant de passer à notre sous-thème d'aujourd'hui qui est « Vaincre les batailles de la pensée », j'aimerais finir avec notre dernier ennemi. Le dernier ennemi de l'homme et le pire de tous n'est pas le premier qu'on a cité, n'est pas le deuxième, mais c'est celui dont on veut parler. Le troisième ennemi, et je crois que nous sommes dans notre quatrième vérité, pour ceux qui s'en souviennent, la quatrième vérité que nous enseignons, que nous sommes en train de développer ensemble, c'est que le combat que nous sommes appelés à livrer chaque jour n'est pas contre la chair et le sang. En d'autres termes, cela ne s'oriente pas contre l'homme, l'humain, le prochain, la chair et le sang. Mais contre, premièrement, nous avons dit le diable, parce qu'il est à l'origine même de la chute de l'homme. Il a initié la chute de l'homme. Deuxièmement, nous avons parlé du monde, pas le cosmos, mais le système établi par des hommes dont la nature est déchue. Il est important que l'enfant de Dieu comprenne ces choses. Mais troisièmement, nous allons parler de la chair. La chair. Quand je parle de la chair, je parle de cette nature déchue, cette nature que nous avons héritée après que Adam ait perdu son état originel. La première chose qui vous vient à l'esprit lorsqu'on parle de la chair, si on avait le temps, on aurait permis à deux ou trois personnes de répondre, c'est un des textes célèbres que nous aimons bien citer, c'est Jésus d'ailleurs qui le dit dans le jardin de Gethsémani. Après avoir exhorté ses disciples à prier, il leur donne finalement la raison pour laquelle ils n'ont pas été capables de prier. Il dit, l'esprit est bien disposé, cependant, la chair est faible. C'est aussi des versets que nous utilisons afin d'amadouer certaines sœurs. Si tu ne cèdes pas, la chair est faible. Quand on dit, frère, résiste à la tentation, dans mon esprit, je résiste, mais dans la chair, je suis faible. La chair est faible. Matthieu 26, le verset 41, la partie B. Et la chair ne sera jamais notre allié. La chair a pour porte d'entrée le cinq sens. La chair fonctionne avec le cinq sens. Et vous comprendrez pourquoi je commençais par revenir sur cet ennemi avant de parler de la bataille de la pensée. La chair fonctionne avec une des grandes portes qui est d'abord la vue, ensuite l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. Mais très souvent, vous remarquerez que la chair fait appel plus à l'ouïe et à la vue. Si Ève était sourde, je crois que le monde serait encore, on serait encore tous dans le jardin d'Eden. Si Ève était aveugle, elle n'aurait jamais convoité le fruit interdit. Alléluia. La chair. Elle est toujours disposée à pécher et laisser libre cours à ses désirs. La chair sera toujours disposée à pécher. Mais voici ce que Romains 8, 6 à 7 nous enseigne. Quatre vérités. C'est un texte très simple, connu de tous. Romains 8, 6 à 7, je crois qu'on pourra projeter cela. Ça nous enseigne quatre choses. Premièrement, c'est que l'affection de la chair, c'est la mort. Qui se livre à l'affection de la chair se place sur le chemin de la mort. Deuxièmement, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et quelque part, la Bible nous dit aussi, je crois que c'est Jean qui dit, que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Nous ne pouvons pas aimer le monde parce que le monde est rebelle à Dieu. Nous ne pouvons pas non plus aimer la chair parce que la chair est rebelle à Dieu. Et Paul, pour remédier à cela, nous propose dans 1 Corinthiens 9, 25 à 27, de traiter durement sa chair, de la maintenir assujettie. Pourquoi? Parce que la chair est inimitié contre Dieu. Pour ceux qui écrivent, notez aussi que le verset que nous venons de citer nous enseigne que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et ne le peut même pas. Ça, ça m'a beaucoup béni. Par moi, c'est un détail que je n'avais jamais vu. La chair, non seulement ne se soumet pas à la loi de Dieu, la chair est rebelle à Dieu et le sera toujours. Mais la chair ne peut pas se soumettre à Dieu. Mais aussi pour ceux qui écrivent, quatrièmement, il est impossible de plaire à Dieu tout en vivant selon la chair et ses désirs. Impossible. Il est impossible de s'appeler enfant de Dieu, intime à Dieu et de vivre selon la chair. C'est tout à fait contradictoire. Lorsque nous vivons selon la chair, nous nous faisons ennemis de Dieu. Lorsque nous vivons selon la chair, nous nous prédisposons. Je dirais même, nous nous prédestinons à l'enfer. Pas besoin d'être prophète pour savoir qu'un homme qui vit selon la chair et qui meurt dans son péché dans la chair, pas besoin d'être prophète, Dieu est juste. Alléluia. Ah oui. Quand on pose à certaines personnes la question de savoir après la mort, vous irez où? C'est Dieu qui sait, c'est faux, tu sais. C'est faux. Où iras-tu après la mort? C'est Dieu qui sait. C'est faux. Nous devons tous le savoir. Parce que la Bible dit que nous serons tous jugés sur base de nos actions, sur base de nos œuvres. Pire encore, sur base de notre relation et sur base de notre communion avec le Seigneur. C'est comme ça qu'un de mes professeurs nous a une fois choqués. Il dit, en enfer, il y aura beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup. Si l'enfant prodigue n'était pas revenu chez son père, il serait mort avec le nom de son père, mais loin de son père. Ah oui, c'est ainsi que nous disons que les victoires, les bénéfices de l'œuvre de la croix sont pour ceux qui sont intimes à Dieu. Relation, communion égale intimité. Ah oui, on n'est pas intime à Dieu parce qu'on va à l'église le dimanche. On n'est pas intime à Dieu parce qu'on sert à l'église. On est intime en Dieu parce que quand on pose la question « Comment va Jésus dans ta vie ?», la réponse est « Il grandit et il va bien ». Regarde ton voisin et pose-lui la question « Comment va Jésus dans ta vie ?» S'il ne te regarde pas, je n'ai rien dit. Mais regarde ton voisin et pose-lui la question. Galates 5, le verset 17, nous exhorte à ne point vivre, marcher selon la chair. La question maintenant est comment plaire à Dieu. Romains 8, 6, la partie A nous dit « en s'affectionnant à l'esprit ». Galates 5, 16 répond aussi à cette question en disant « en marchant selon l'esprit ». Mais Romains 8, 14 dit « ceux qui sont remplis de l'esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Or, pour être fils de Dieu, nous devons être remplis par l'esprit de Dieu et conduits par cet esprit. Il est impossible de se dire « fils de Dieu » et marcher selon la chair. Il est impossible de se dire « fils de Dieu » et se complaire dans le péché. S'affectionner aux choses de l'esprit. Pour ceux qui écrivent, notez avant qu'on évolue rapidement, ce que l'obéissance à la parole de Dieu est la preuve que nous sommes fils de Dieu, remplis et conduits par le Saint-Esprit. On ne reconnaît pas un fils de Dieu par son aptitude à prier pendant des heures. On n'est pas fils de Dieu parce qu'on prie longtemps. On n'est pas fils de Dieu parce qu'on prêche. Non. On n'est pas fils de Dieu parce qu'on fait partie des meilleurs danseurs de l'Église, des expressions de louange. On n'est pas fils de Dieu d'abord parce qu'on chante. On n'est pas fils de Dieu d'abord parce qu'on sert. Mais on sert parce qu'on est fils de Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. Et l'obéissance doit ce qui doit et ce qui doit commencer par nous caractériser d'abord en tant que fils de Dieu. L'obéissance à sa parole. Imaginez, Jésus sort du zoo des baptêmes, quelque chose de glorieux se passe. Au lieu d'aller dans la ville pour exercer la puissance qu'il venait de recevoir, le Saint-Esprit le conduit dans... C'est une folie, mais c'est quoi cette histoire? L'obéissance de Jésus a fait de lui un homme supérieur au-dessus d'Adam, au-dessus des anges, au-dessus de tout ce qui existe sur la terre. Ce qui fait de nous des hommes redoutables aux yeux du diable, c'est d'abord notre cœur pour Dieu. La chair s'attachera toujours au monde. Mon pasteur une fois a dit, la chair est attachée au monde parce que sa carcasse a été tirée de la poussière. Notre esprit est attaché aux choses d'en haut parce que nous sommes venus du souffle de Dieu. Il a soufflé. Et nous serons toujours appelés à faire un choix entre vivre selon Dieu et vivre selon la chair. Moi, quand je vois des gens tomber dans le péché, surtout de l'impureté, l'impudicité et tout, parfois je le comprends. Et j'aime bien poser la question, est-ce que tu as aimé? C'est important. Quelqu'un dit Yesu. C'est important. Oh, pasteur, je suis tombé avec la sœur, je le regrette amèrement. Mais quand même, est-ce que tu as aimé? Et on a l'impression que je procède mal. Non, il faudrait savoir, est-ce que tu as aimé? Et certains disent, ah oui, hein? C'est parce que je ne vous ai pas encore posé cette question que vous rigolez. Est-ce que tu as aimé? La personne dit, avec un sourire un peu sournois, là. Oui, hein? Et pourquoi tu t'en répands? C'est là, au fait, la question. Il ne faut pas se repentir d'une chose dont on ne comprend pas trop le sens. C'est comme demander pardon et dire, pardonne-moi alors. Unisame bas. Ah non, moi avant de dire je te pardonne, je te pose la question, tu t'excuses, pourquoi? Parce que si tu n'as pas conscience de la faute que tu as commise, la récidive est à côté, tu vas tomber dans la même erreur. Mais quand on est conscient de ce pourquoi on s'excuse, il faut beaucoup d'humilité. Demander pardon veut dire je reconnais avoir mal agi et que tu as raison et je le reconnais et je m'excuse. C'est ça dire pardon. Mais les chakwa français, excuse-moi, non. Dis-moi, pardonne-moi. Oh non, mais je me suis déjà excusé. Formule tes excuses. Pardonne-moi d'avoir été pour toi une occasion de chute. Parce que parmi les choses qui caractérisent la chair, il y a l'orgueil. La chair est liée à l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Tous les orgueilleux sont amis du diable, parce que le diable est le premier des orgueilleux. Tout orgueilleux est prêt à mentir pour atteindre ses objectifs. Et le Seigneur nous appelle à marcher selon l'Esprit, afin de maintenir cet orgueil assujetti. L'humilité se veut de faire ce que la Bible me recommande de faire et non ce que moi j'ai envie de faire. Quand on nous demande, moi j'ai aimé bien cette question, l'ennemi, pourquoi vous n'avez pas dit que c'était la famille? Pourquoi? J'aime bien mes frères du combat spirituel, mais je ne suis pas d'accord avec eux sur certaines choses. Dans le sens où quand vous arrivez pour la prière, mais non, c'est des prières terribles. Noko wana, tata moi si wana, mama akoufa, oh non, non, Jésus. J'ai une fois dit à un frère, je vais aller prier avec les amis du combat spirituel pour ne pas citer le ministère précis. Le frère m'a dit, papa, ou ta sirika. Il lui a touché à français à Jacques Vernon. Mais non, 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 non. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Moi, j'aime bien le dire, je ne joue pas dans la même catégorie que le sorcier. Mon adversaire, c'est leur maître. Donc, quand le sorcier vient, moi, je les chasse. Quand le diable vient, je résiste. Oui, c'est ce qui s'est passé à la croix. Vous pensez, quand on dit une série de victoires, c'est le package du salut. Et un homme qui est dans les seigneurs, il ne fouille pas le sorcier. Que les marabouts de la ville entrent par cette porte, il sortira par celle-là. Fim watapataoum, atachangal. Mais aussi longtemps que vous ne l'avez jamais vécu, vous avez l'impression que c'est des fables. On ne joue pas, le chrétien, né de nouveau, ne joue pas dans la même catégorie que le sorcier. que le magicien, quel que soit son grade. Parce que mon adversaire, c'est le diable. Mon maître ne m'aime pas l'adversaire de leur maître. Vous imaginez un peu? Donc, quand le diable vient, Jésus ne descend pas. Il me dit, Smith, va, résiste-le, dis-le de partir. Quand le sorcier vient, je ne bouge même pas, je parle et il sort. Quand les démons se manifestent, je ne bouge pas, j'ai dit, sors, il sort. Et c'est ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Mais cette dimension de l'esprit n'est possible que lorsque la chair est domptée, que lorsque la chair perd de son influence, que lorsque nous acceptons de marcher dans la pureté, dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Cette dimension de l'esprit n'est accessible que lorsque nous nous mettons à part pour le Seigneur et refusons, faisons fi à la voix de la chair pour ne marcher que selon la voix de l'esprit. Mais le prix à payer, c'est celui-là, le renoncement et le sevrage. Renoncer à l'hypocrisie, la chair aime l'hypocrisie. Et aujourd'hui, pour maintenant favoriser la vie de péché, il y a ces environnements qui favorisent l'expression de la chair. Quelqu'un me demande, « Pasteur, est-ce qu'embrasser, c'est un péché ?» Je lui ai posé la question, « Dans quel environnement ?» Parce qu'aujourd'hui, ça varie. C'est certain qu'il veut me dire, « Mais au Kenya, ce n'est pas un péché ?» Et je lui ai posé la question, « Quand on a parlé des œuvres de la chair, on n'a pas tenu compte du Kenya et des États-Unis ?» Et moi, je vous l'ai déjà dit une fois ici, mes frères. Si on va sur le terrain du bien et du mal, nous allons nous cogner la tête. Parce que ce qui était mal hier est devenu bien aujourd'hui. Ce qui était... À une époque, ma mère me reprochait certains vêtements. Elle disait, c'est pour les voyous. Je ne sais pas vous, en tout cas nous, à une certaine époque. À une époque, ma mère nous reprochait une certaine coiffure parce qu'elle disait, c'est pour les voyous. On reprochait une certaine tenue aux sœurs parce qu'on disait, c'est pour les prostituées. J'ai l'impression que les choses ont beaucoup changé. Je me demande qui a redéfini ces choses. Ce qui était hier pour les voyous, aujourd'hui, est-ce que les mères achètent à leurs enfants? Aujourd'hui, c'est ce qu'on trouve dans les supermarchés. Ce qui hier était les résultats d'une souris qui est passée par là. Aujourd'hui, j'ai l'impression que certains pantalons dorment sous le lit avec des sauces afin que la souris vienne ronger. Une fois, je pose la question à une sœur, Paul et Sana, vous avez commis un accident? Parce qu'elle avait un trou dans son pantalon. J'ai eu pitié. C'était de l'ironie. J'ai dit, Paul, vous avez commis un accident. Non, papa. Mais il n'y a que le pantalon qui est déchiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à tirer le bout du pantalon. C'est comme ça que je nous dis, mes frères, s'il faudrait aller sur les notions du bien et du mal, on va se cogner la tête. On va tomber dans le légalisme. Mais restons dans ce qui est juste aux yeux de Dieu. Posons-nous la question de savoir ce que je mets, est-ce que ça édifie, est-ce que ça glorifie, est-ce que ça révèle Jésus? Si Jésus était de cette génération, revenons un peu, Jésus jeune. C'est vrai que la Bible ne nous parle pas beaucoup de sa jeunesse, hein? Mais bon, Jésus jeune. Aurait-il été un UPA ou un Jamman? Posons-nous la question parfois. Les œuvres de la chair. La chair est égoïste. On s'habille pour soi, on parle pour soi, on agit pour soi. Ce que les gens disent, je m'en fous. Je suis têtu de nature, très têtu, mais seulement quand Dieu m'a parlé. Et seulement quand je sais que ce que je fais est juste aux yeux de Dieu. Mais l'humilité se veut quand on a tort de reconnaître qu'on a tort. L'humilité se veut quand on a mal agi et qu'on a été une occasion de chute pour un frère, le dire, pardonne-moi. Pourquoi? Parce que nous sommes gardiens les uns des autres, et nous l'avons dit dernièrement. Alléluia. Si nous vivons par l'Esprit, Galates 5, 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ah, si nous vivons par l'Esprit. Même l'apôtre Paul, bon, il dit si, parce qu'il n'avait pas l'espiritomètre, il n'en avait pas. Alors il parle à des hommes, il dit si nous vivons par l'Esprit, alors que nos œuvres soient aussi spirituelles, de fruits, de l'influence qui agit en nous. Un homme définit la sorcellerie comme avoir un mauvais cœur. Quelqu'un dit, mais comment tu peux me dire ça d'ici? Il dit, un sorcier est d'abord celui qui a un mauvais cœur. Et si tu as un mauvais cœur, si on fouille, il y a de la sorcellerie. Et il y a des experts en ça. Lui, il sent l'odeur du sorcier. Ça sent la sorcellerie ici. Et s'il vous dit, c'est ici. Ah! Quand il commence à prier, vous voyez, quelqu'un ne s'élevait pas. Frère, on est dans la toilette, c'est de ce côté. La cinquième vérité pour ceux qui écrivent, sur le 6 que nous avons énoncé dernièrement, ce que chaque bataille remportée est un pas vers la stature parfaite de Christ. Chaque bataille remportée est un pas vers la stature de Christ. Au diable, il dit résister. À la chair, il dit ne vous, au monde, il dit ne vous conformez pas. Et à la chair, il dit maintenez-la assujettie. Parce que ceux qui sont en Christ ont crucifié leur chair et la chair et leurs désirs. Nous ne pouvons pas vivre et expérimenter les victoires de Christ à Golgotha si nous continuons à être sensibles aux besoins de notre chair. Je viens dire à quelqu'un, il t'arrivera d'avoir envie de coucher avec une femme. Ne le fais pas. On ne couche pas avec une femme parce qu'on en a envie. Surtout si ce n'est pas ta femme. Et surtout si elle n'est pas disponible. Pourquoi as-tu fait ça? J'en ai eu envie. Vous comprenez qu'il est encore loin du Seigneur. Il faut vraiment l'amener vers le béaba. La Bible dit que le fort soutient le faible. Et parmi les grands ennemis de la foi chrétienne, c'est la chair. J'ai aimé ce qu'une fois le docteur Rémy a dit. De tous les ennemis du chrétien, du croyant, le plus petit, c'est le diable. Quelqu'un dit, si, c'est le diable. Parce que le diable est incapable d'opérer dans la vie d'un homme sans l'aval de cet homme. Deux entités, permettez-moi de le dire ainsi, ont le pouvoir de permettre ou d'interdire à Satan d'agir. Un, c'est Dieu. Deux, c'est l'homme lui-même. Si Satan était venu dans sa forme diabolique pour confronter Adam, il aurait reçu la raclée de sa vie. Mais il est venu, il a procédé par la ruse et la tromperie. Pourquoi est-ce que s'il est fort, pourquoi il vient par le mensonge? S'il était fort, pourquoi il vient par le mensonge? Parce qu'il sait que quand on a Mouvumbu, on a Pigambayasa. Et les diables aiment là où on ignore sa présence. Pourquoi? C'est là qu'il parle calmement. Vous voyez des frères s'entretuer, s'entrecogner. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Le diable, quelque part, en train de s'aimer la zizanie. Et il aime la zizanie. Sans la chair, le diable est incapable d'opérer dans ta vie. Un auteur a appelé la chair la cinquième colonne. Une stratégie militaire qui vise à utiliser des infiltrés pour déstabiliser le pays. Et on l'a vécu avec ce qui s'est passé au Congo. Avec la guerre, Rutshuru, Masisi, tout le monde s'est plaigné. L'armée est infiltrée. Et on a senti, hein, un petit groupe du M23 déstabiliser la FRDC. Déstabiliser. Aujourd'hui, on a des Turcs dans le pays, des Kenyans dans le pays, les hommes de l'Ouganda dans le pays. Ah! On se dit finalement. Vous dites, le M23, c'est un continent, c'est des hommes. Non, on se pose la question. C'est un continent, c'est l'OTAN ou bien c'est... On se pose la question. La force de l'infiltration. Des hommes viennent, tapent sur un baobab, le baobab ne tombe pas, mais des termites s'engagent à ronger de l'intérieur quelques temps après le baobab tombe. La chair est un ennemi à ne surtout pas sous-estimer. Et la meilleure façon pour nous de vaincre la chair, ce n'est pas vivre selon le monde, c'est vivre de manière disciplinée. La chair, c'est la discipline. Je répète, la chair, c'est la discipline. Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce qui doit être fait pour Dieu. J'ai envie de, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Afin de vivre ce que Christ a accompli à la croix. Dieu peut te donner des très grandes promesses. Le diable n'a pas le pouvoir de t'empêcher de vivre ces promesses. Ah oui? Balak va chercher Balaam, maudis-moi ce peuple. Il a réussi. Quand on apprend que l'oncle est allé au village pour nous faire des incantations contre la famille, moi je viens en retraite. Pourquoi? Parce que l'oncle a dit qu'il allait nous maudire. Quand on maudissait Israël, est-ce qu'il savait même? Notre rédempteur est vivant, il ne dort ni ne sommeille. Quand nous dormons, il annule les imprécations qui sont faites contre nous. Ah oui. Mais la peur s'installe quand on sait que notre communion avec le Seigneur n'est pas bonne. Nous doutons de ce que Christ a accompli à la croix. Moi, j'ai toujours posé la question à certaines personnes. Dites-moi où est-ce que la Bible nous présente le patriarche Joseph en train d'intercéder pour l'accomplissement de ses promesses. Montrez-moi où. Le gars n'a jamais prié. On ne nous a jamais dit Joseph intercédant pendant 3 jours à sec afin que les promesses de l'Éternel. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit qu'il fera, toi fais ta part. Joseph a juste été obéissant. Et parfois, on a l'impression que le test de sa vie était dans la maison de Potiphar. C'était soit tu acceptes, tu continues de croire en ce que Dieu t'a promis, ou soit tu acceptes le raccourci que la femme de Potiphar lui proposait, la chair. Je me suis toujours mis à la place des gardes, sincèrement, mes frères. Vous tombez sur un gars nu qui vient de fuir les séductions de la femme de Potiphar avec le drapeau levé et il vous dit « Je n'ai rien fait ». Qui va croire en ça? Qui va croire? Qui? Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Mais il est au garde-vous, frère. En plus, un dit, frère, on a l'impression que tout était contre lui, mais Dieu savait que le gars n'avait rien fait. Dieu savait. Tout était contre lui, mais le gars est resté fidèle au Seigneur. Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Mais tout était contre lui. Quand un homme marche selon la parole de Dieu, même quand la calomnie s'élève contre lui, il ne tremble pas, parce qu'il sait que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes victorieux. Sixième vérité avant de parler afin de la bataille de la pensée, parce que je crois que ce ne sera pas aussi compliqué que ça. La sixième vérité, c'est que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire, à cause du prix payé au calvaire. Nous ne combattons pas pour, mais dans. Lorsque le diable nous attaque, il n'est jamais sûr de nous battre. Jamais. La Bible l'appelle le tentateur. Il vient tenter, il vient voir, il hésite, il ose pour voir ce qui va se passer. Le diable n'a jamais quitté chez lui pour venir frapper à ma porte et être sûr de la manière dont je vais réagir. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Parce que s'il savait, il n'aurait pas perdu son temps à tenter Jésus. Pourquoi a-t-il tenté? Mon pasteur disait que c'est comme un mouniabungu. Il tente, on verra. Et mon pasteur disait, vous arrivez à un endroit, il n'y a pas un mouniabungu, quittez cet endroit, il n'y a pas la vie là-bas. Oui, mon pasteur pouvait se permettre de faire des blagues sur les mouniabungu parce qu'il était lui-même mouniabungu. Il a quitté Idjibou venir tenter sa chance ici et voilà. Alors que nous n'avançons pas au hasard. Non, ce n'est pas au hasard. Notre victoire est certaine. Il est important que chaque chrétien le sache. Même dans la mort, ma victoire est certaine. Le diable viendra nous tenter toujours sur ce type de terrain. J'aime mon épouse, j'aime mes enfants. Bon, jusque-là, j'ai une seule fille, mais voilà. J'aime mes enfants, j'aime la petite vie que je mène. Mais entre ça et Christ dans la mort, pour moi, le choix a toujours été clair. Toujours. Un homme m'a une fois dit à une époque, c'est parce que tu n'as pas grand-chose à perdre. Aujourd'hui, j'ai beaucoup à perdre. Et je l'ai dit souvent à mon épouse. Si la mort frappait à ma porte, tu ne me verras jamais prier, Seigneur, écarte de moi cette mort. Jamais. Parce que la porte est pour moi la mort est pour moi une porte vers une autre vie. Je préfère mourir pendant que je suis encore conscient de ma relation avec le Seigneur. Imaginez un peu, vous finissez de vous chamailler en famille, dans le foyer ou à l'école, vous prenez la moto, vous êtes au motard, toi, Ndembi, Odi, et on vous cogne, vous n'avez pas eu le temps de vous repentir. Ah! Frère, quand vous êtes nouveau dans la foi, ok, mais vous avez 30 ans de consécration, donc toi, tu es fidèle. Fidèle! La mort ne devrait pas être pour nous une fin en soi. Mais pourquoi le diable parvient parfois à nous déstabiliser? C'est parce que le diable parle souvent de la mort. Si tu ne fais pas ci, on fermera telle porte. Si tu ne fais pas ci, tu ne vas pas te marier. Si tu ne fais pas ci, tu n'iras jamais de l'avant, tout naillé. C'est lui qui a les clés de la progression. Le Dieu que je sers dit, il a entre ses mains les clés de David. Il ouvre une porte devant toi que nul homme ne peut fermer. Je fais confiance à celui qui a une clé, qui ouvre une porte que nul ne peut fermer. Et je fais confiance à un homme qui dit, si tu meurs en moi, même mort, tu vivras. Parce qu'il dit, je suis la vie. Et la résurrection. Bon, le diable quoi? Voleur, menteur, égorgeur, dérobeur. Vous avez vu résurrecteur quelque part? Non. Mais celui qui est mort à la croix, il n'a même pas été capable de le maintenir dans le tombeau. Imaginez un peu la bêtise du diable. Jésus vient sur terre pour mourir afin de sauver l'humanité. Le diable le précipite à la croix. C'est quand le monsieur arrive à la croix Le voile se déchire, le tombe, qui se rend compte, Eke, les gars, on a mal agi, hein? Le gars là, il a libéré tous les captifs. Non, parfois quand vous étudiez la vie du diable, étudiez bien certains scénarios, vous vous rendrez compte que Jésus n'a pas tort de dire « tu penses comme un homme ». Mais c'est ce type-là qui nous effraie. Pourquoi il touche aux besoins? Pour nous empêcher de vivre les victoires de Golgotha. Et parmi les grandes cibles du diable, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, le taux d'homosexualité monte en flèche. On recrute où? Parmi les jeunes. Par quel moyen? L'argent, la gloire, le succès. Les jeunes d'aujourd'hui, nous ne voulons pas souffrir. Non? Parce qu'on a l'impression que ce qu'on voit à la télé, c'est ce qu'on doit avoir. Qui t'a dit ça? Je me suis toujours rendu compte d'une chose. Quand le diable vient te tenter avec un million, ce que Dieu t'appelle à des milliards. Ah oui? À des milliards. Si le diable te tente avec un million, c'est que tu vaux plus. C'est que tu vaux plus. Il te tente avec un jeune homme, un homme qui vient, il a l'air tout beau, tout blanc. Un beau gosse avec des tablettes de chocolat. J'ai dit, ma soeur, tu vas regretter. Oh, papa, c'est lui. Quelle est la preuve que c'est lui? Il a une voiture, il a une maison, il travaille. Ah bon? Je vous joue avec l'avenir. T'as quoi, mon badge? Ma quoi, t'as Kouchoubouk? Nous ne combattons pas pour maintenant. Quand le diable s'élève, célèbre déjà ta victoire. Quand le diable t'attaque, avant de le contre-attaquer, célèbre déjà ta victoire. Parce que quand il vient, il a peur de toi. C'est comme un sorcier qui rencontre un voleur en chemin, c'est grave. Qui fouille qui? Qui pose la question à l'autre? On ne se pose même pas la question. Ulitoka, nawo ulitoka, pite, namina pite. Matthieu 15, le verset 19, enfin parlons un peu de bataille. Matthieu 15, le verset 19, la Bible dit, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Cela vient du « les mauvaises pensées ». Et ces cœurs dont il est question, il s'agit de la nature déchue de l'homme, la chair. La chair. Et nous sommes bombardés par la télé aujourd'hui, bombardés. Vous décidez de suivre des dessins animés, même dans les dessins animés, vous êtes bombardés de messages subliminaux. Vous décidez de suivre des séries qui semblent enfantines, mais vous vous rendez compte que même là, vous êtes bombardés par des pensées obscènes. Vous posez la question, mais le but du réalisateur, c'était quoi exactement? Vous ne trouvez pas. On pollue la pensée par ce à quoi nous sommes exposés. Nous polluons notre pensée par ce à quoi nous sommes exposés. Quand nous écoutons, quand nous regardons, cela nous pollue. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu as l'habitude d'entendre? Ça définit la qualité de tes pensées. Ah oui? Ça définit la qualité de tes pensées. Un philosophe dit, l'homme n'est bon, c'est la nature, c'est le monde, la nature qui l'avilit. Mais c'est faux. L'homme n'est mauvais avec la sémence du péché en lui. La première fois que ma fille, Larry, m'a giflé, qui lui a appris à faire ça? Et c'est venu de nulle part. La première fois qu'elle s'est fâchée, qui lui a appris à faire ça? La première fois que je lui ai dit viens, et qu'elle a boudé, elle dit je viens pas. Yo, qui t'a appris à faire ça? L'homme n'est mauvais. Il est important que la jeunesse comprenne que telles sont nos pensées, telles nous sommes. Remplis de mauvaises convictions, de fausses croyances. Quand j'étais petit, mes camarades de classe, comme la sœur, me traitaient, moi, de tata bourreau. Quand je me regarde, je me dis, j'étais pas aussi gros que ça. C'est vrai, j'avais quand même un œuf colonial que j'ai perdu dans le foyer, bizarrement. D'autres gagnent des montagnes, nous autres, nous aplanissons les montagnes. Je crois qu'il y a de ces gens que je dois consulter pour avoir de conseils. N'est-ce pas, Président? Alors, Dieu, des fausses croyances. Et quand j'étais petit, mes collègues de classe m'ont laissé croire que j'avais une tête crochue. Dites-moi, est-ce qu'elle est crochue? Et c'était à chaque moment qu'il y avait une incompréhension, ils aimaient bien dire à Lingala, Talaï dit Kosi. Ah, je ne sais pas comment vous dites ça en swahili, mais, hein? Kapolocho. Kapongocho. Mais en grandissant, Nicolas, t'as fait les capongosho. Parfois, je me regarde même dans la vidéo, je ne vois pas des capongosho. Les fausses croyances, c'est que tu entends définir ta pensée. À quoi est-ce que tu exposes tes oreilles? À quoi est-ce que tu exposes tes yeux? La télé nous fait croire et fait croire à certaines femmes qui naturellement sont belles, que si tu n'ajoutes pas un peu de boue, deuxième couche de boue, troisième couche de boue, tu ne seras pas belle. Et à toutes ces boues, on a donné un nom. Fond de teint liquide, fond de teint deux fois liquide, blush et tout. Vous vous dites, mais on va où? Quand vous vous renseignez avec tout ça, on vous dit que c'était ce qu'on appelait des caches-misères. Mais tu regardes la sœur. Mais ma sœur, vous n'avez aucune misère à cacher. Et elle ne vous croit pas parce qu'elle veut ressembler à celle qu'elle a vue à la télé. Des fausses pensées. Aujourd'hui, on est dans les débats, permettez-moi de le dire à la jeunesse, où on est dans les débats et quelle est la plus belle poitrine? Quelle forme faut-il avoir avec les fesses? On se bat et on a toutes sortes de comprimés, de choses qu'on fait pour que la poitrine évolue, pour que le bassin soit... Mais maman, qui t'a dit que tu avais un mauvais bassin? Télémanan tout le monde ou bien? Télémanan. Personne ne s'élève. Qui nos sœurs qui ont des doutes par rapport à leur bassin s'élèvent. Aujourd'hui, on est dans les débats. Oh non, la verge doit avoir combien de centimètres? Combien? C'est quoi ces débats? Pollution, polluer! Polluer! Quel est le couple idéal? Que ce soit papa 1 et papa 2, il n'y a pas de souci. Le plus important est qu'ils s'aiment. Pas l'hiver, une bêtise, mais qui vous a dit ça? Non, quand Dieu a institué le mariage, c'était l'homme et la femme. Il n'a pas dit c'était Jean-Paul et Janine. Il n'a pas dit c'était Jean-Paul 1 et Jean-Paul 2. J'ai toujours imaginé un cauchemar. Que mon fils vienne à la maison pour dire, papa, je te présente mon ami. Ah, comment il s'appelle? Il s'appelle Paul. C'est mon ami. Oui, oui, tu me l'as déjà dit. Non, c'est mon ami, papa. Mais quand le fils vous répète trois fois que c'est mon ami, il faut s'arrêter un moment pour poser la question, est-ce qu'on a la même compréhension du mot? Non, imaginez un peu le cauchemar de chaque parent. Maintenant, imaginez le cauchemar d'un enfant qui donne sa vie au Seigneur et qui a grandi dans une famille homosexuelle. Imaginez le cauchemar. L'Église fera quoi demain? Allons-nous demander à cet enfant de quitter ses parents? Est-ce que c'est des parents? Allons-nous demander à cet enfant de quitter sa famille? Est-ce que c'est une famille? Selon qui? Les hommes ou selon Dieu? Lorsque le monde essaie de polluer notre pensée, la seule façon pour nous de remédier à ce problème, c'est de lire la parole de Dieu. Comme l'a dit le frère, la meilleure façon de remplacer une mauvaise pensée, c'est de la bombarder avec des pensées justes et inspirées de la parole de Dieu. S'il y a une chose que la jeunesse ne fait plus aujourd'hui, aussi, elle ne lit plus la Bible. Et quand elle lit la Bible, c'est qu'elle va prêcher demain. Quand elle lit la Bible, c'est qu'elle va modérer, elle veut nous impressionner. Quand elle lit la Bible, c'est après avoir suivi T.D. Jakes sur YouTube et après avoir copié les grandes lignes et venir nous bombarder ces choses à la chair. Je dis, on saura les vrais chrétiens par la qualité de vos pensées. Si vous êtes incapable de pardonner, on comprend dans quel environnement vous évoluez. Comment aujourd'hui peut faire comprendre une pensée du Seigneur? Il faut insister. Pour dire à un frère, pardonne à ta sœur, à ton frère, il faut démontrer pourquoi pardonner. Il faut le démontrer. Et on attend que l'Église vive les bénéfices de la croix de Golgotha. Non. Si Abraham devait toujours obéir après que le Seigneur ait donné des explications, croyez-moi, Isaac ne serait pas venu. Peut-être qu'il serait venu, mais au soir d'Abraham. Isaac serait en train de naître, Abraham serait en train de mourir. Ça aurait pris du temps et pour rien. Quelqu'un comprend ce que je dis? Avec le temps, je me suis discipliné. Chez moi, il n'y a pas de Canal+. Parce que Canal+ n'a rien à exposer aujourd'hui. Les décodeurs aujourd'hui font partie des éléments que le diable utilise pour polluer nos familles. Les familles modèles sont celles qu'on voit sur Internet. Les épouses modèles sont celles qu'on voit sur Canal+. Les enfants modèles sont ceux qu'on voit. Aujourd'hui, les enfants sont grossiers. Pourquoi? Certains dessins animés. Un enfant qui se permet de dire du repas de sa mère, ce berque. Ah bon, insolent. Tu connais le prix du sel, toi? C'est ta femme? Quand on était petit, on ne disait pas Berk. On dit que c'est intéressant. Comment était le repas? C'était intéressant, maman. Comment était le repas? C'était une découverte. Comment était le repas? J'ai aimé la recette. Une fois, mes soeurs me posent la question, mais pourquoi est-ce que nos repas sont des recettes pour toi? Je dis parce que pour la première fois, je mange un repas avec un peu de sel, avec un peu de sable, avec de l'huile, de l'eau, et tout est au fond. Bon, peut-être que c'est moi qui ne maîtrise pas la chose, c'est une recette. Mais aujourd'hui, on est devenu tellement insolent, tellement arrogant, qu'on utilise des jurons et on pense qu'on parle français. Si je n'étais pas à la chaire, je me serais permis de donner des exemples. Vous comprenez de quoi je parle. On utilise des jurons et on parle et on pense qu'il n'y français. Et ni, et mais, oh, frère. Et mais, non. Oh. On n'a pas ni français. Non, avec le français, on t'avilie. Pour avilir une nation, apparemment, on m'a ajouté 2 minutes. Pour avilir une nation, affecter ses pensées. Je répète, pour avilir une nation, affecter ses pensées. Affecter. Pour affecter une femme, faites un commentaire sur son physique. C'est fini, elle est déstabilisée. Quand je vois ma fille grandir chaque jour, je lui dis, ma fille, tu es belle. Tu es bien habillée. Même quand le jeu de couleurs ne m'intéresse pas beaucoup, tu es bien habillée. À tel enceinte que ma fille, parmi les premières choses qu'elle sait dire, c'est « waouh, waouh, waouh ». Elle a tellement entendu « waouh » qu'un cul d'âme ne va pas se présenter pour dire à ma fille qu'elle est belle et ma fille tombe dans ses bras. Pourquoi? Parce que vous avez dit à ma fille qu'elle est belle. Je le sais, mon père me le dit tout le jour. Et qui est son père? Qui est son père? Je nous exhorte donc, mes frères, à nous exposer à la parole de Dieu, car c'est à quoi nous nous exposons, nous affecte. Que Dieu bénisse sa parole.